Vous êtes sur RTL.
RTL. On a une chance inouïe chez Danone, parce que le passé est très proche. C'est une entreprise qui date des années 70. À l'échelle d'une entreprise, c'est rien.
La curiosité est un vilain défaut.
Et on a eu la chance, en plus, d'avoir toute cette histoire portée par deux personnages extraordinaires qui étaient Antoine Riboud et Daniel Carasso.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je m'appelle Franck Riboud, je suis le fils d'Antoine Riboud. J'ai fait évoluer la culture de Danone.
Après Bic, Renault, Coca-Cola, Playel, Adidas, Disney, c'est une nouvelle saga de marques qu'on vous propose dans la curiosité. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Bienvenue.
Heureux de vous retrouver. Vous êtes journaliste éco-RTL et vous allez nous raconter comment Danone est devenu un géant mondial de l'alimentation. Danone qui fête son centenaire, 1919, donc au sortir de la Première Guerre mondiale. Qui crée cette marque?
C'est un commerçant espagnol. La marque Danone, au tout départ, en 1919, elle est créée par Isaac Carasso, en Espagne, à Barcelone. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on pense Danone, c'est français. Mais c'est pas tout à fait ça au début.
Et pourquoi il l'appelle Danone?
Alors Danone, c'est en fait le surnom de son fils qui s'appelle Daniel. Et donc Daniel, en catalan, c'est Danone, auquel on rajoute un E, ce qui donne le nom qu'on connaît aujourd'hui.
Isaac Carasso, ses premiers yaourts, puisque ça démarre par le yaourt, il les vend où?
Il les vend d'abord dans des réseaux de pharmacie, parce que les yaourts ont des ferments lactiques et sont censés avoir des propriétés digestives. Donc effectivement, c'est pas forcément dans les commerces qu'on connaît aujourd'hui, c'était plutôt les pharmacies.
Donc le yaourt Danone, à l'origine, est presque plutôt un médicament, on pourrait dire ça.
En tout cas, c'est comme ça qu'il est conçu, c'est comme ça qu'il est proposé, pour une meilleure digestion.
Ouais. Alors Daniel Carasso, qui est le fils d'Isaac, du créateur, va reprendre la marque et la développer d'abord en France. De quelle manière?
Alors en fait, Daniel, qui est le fils d'Isaac, fait des études de commerce à Marseille. Il va se rendre sur Paris, il fait un stage à l'Institut Pasteur. Et là, il décide de créer aussi sa marque, qu'il appelle, du même nom que la marque espagnole, Danone. De la même façon.
Il démarche
les
médecins lui aussi, un peu la même démarche.
Oui, il explique que c'est bon pour la digestion, que c'est une marque qui a plutôt des conséquences bénéfiques sur la santé. Et il va décider de les développer dans les réseaux de laiterie autour de Paris. Et ça fonctionne très très bien.
Au début des années 70, Daniel, on dresse comme ça rapidement le point de départ de l'histoire. Au début des années 70, ce Daniel Carasso, il rencontre Antoine Riboud, qui est le patron d'une autre marque, qui s'appelle BSN. Alors, ils sont dans quel secteur, BSN?
En fait, BSN, c'est une marque qui s'occupe de fabriquer du verre, des plaques de verre, du verre plat. Ouais. Ça, c'est vraiment l'origine de la marque BSN. Et Antoine Riboud est un patron qu'on peut dire assez extraordinaire et qui va aussi développer sa marque dans le domaine de l'alimentaire et des boissons.
Alors, il détonne cet Antoine Riboud un peu dans le monde du patronat. Pour quelles raisons?
Alors, ce qui change chez Antoine Riboud dans sa façon de diriger Danone, ça va être mai 68. En 1968, Antoine Riboud, il a 50 ans et il est très intéressé par ces mouvements étudiants et il est très intéressé par les réflexions qui y sont proposées, à savoir donner du sens à la société, donner du sens à l'entreprise. Et justement, Antoine Riboud, il va s'engager là-dedans et il va dire une entreprise, ça a certes un objet commercial, c'est pour faire des bénéfices, c'est pour faire du business, mais une entreprise, ça a aussi un objet social. Et le but, c'est aussi de permettre aux salariés de s'épanouir au sein de l'entreprise. Et justement, ça détonne énormément parce que il explique ça notamment en 1972 devant un parterre de représentants du patronat français. Donc imaginez Antoine Riboud expliquant ça à la tribune. La croissance n'est pas forcément objet de bienfaits. Oui, il faut faire attention à la planète.
Mais ça achète une popularité, alors j'imagine, en dehors des patrons.
C'est un petit peu des deux, effectivement. Ouais. En tout cas, il est détonnant, ça c'est certain.
On va, grâce à vous Anaïs Bouissou, raconter l'histoire de Danone. D'ailleurs, c'est l'une des histoires que vous expliquez, détaillez dans l'histoire insolite des marques chez City Edition. Alors notamment, j'aime beaucoup, écoutez bien Sidonie, comment les petits pots de Danette ont évolué. Vous allez voir que dans une entreprise, il faut toujours bien ouvrir son courrier.
D'accord.
Un film RTL.
L'Europe signe des produits de ses terroirs avec la pomme du Limousin. Reconnue par le label AOP, appellation d'origine protégée, la pomme du Limousin est ferme, croquante et juteuse. Ses arômes délicats et son bon goût sucré en font la star des pâtisseries et composées sans ajout de sucre. Campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
RTL.
C'est en 1919 que Isaac Carasso, se souvenant des bienfaits du lait fermenté dans les Balkans de son enfance, décide de développer un produit peu connu en Espagne et dans l'Europe, le yaourt.
La curiosité est un vilain défaut.
Et pour bien marquer ce caractère spécifique, il a vendu ses premiers pots dans des pharmacies.
C'est une marque française devenue un géant mondial. Elle fête ses 100 ans, raconte l'histoire de Danone avec Anaïs Bouissou, journaliste éco à RTL. Alors parmi les produits phares de la marque, ça nous rappelle tous un peu notre enfance, il y a les pots Danette. Les pots de Danette, c'est la crème dessert, bien sûr, au chocolat, à la vanille, bref. Quand et sous quelle forme elle a été lancée?
Ça date de 1970, quand M. Ribou rentre d'un voyage aux
Donc
Pays-Bas.
Donc le patron, Antoine Ribou.
Patron, ouais. Exactement, rentre d'un voyage aux Pays-Bas et il a découvert une espèce de crème dessert qu'il remet à sa sauce, on va dire ça comme ça en France. Une crème dessert dans laquelle il intègre de la crème fraîche. Et c'est une crème qui va se conserver au frais, qui va être présentée dans des grosses barquettes familiales
de 500
grammes.
Moi, je me souviens
grammes.
Du premier packaging, c'était gros. Hein.
Ah, voilà, c'était,
on était contents, on savait qu'il y en avait pour toute la semaine.
Voilà, alors on les mangeait en une fois, on se faisait engueuler.
C'était un succès immédiat, ça, la Danette.
10 000 tonnes, je crois, de Danette vendues en 4 ans. Mmh. C'est quelque chose qui est phénoménal. Et d'abord, c'était goût chocolat. Et ensuite, évidemment, se sont développées toutes les saveurs qu'on connaît aujourd'hui, notamment la vanille, notamment la pistache. Mmh. Voilà.
Ah bah oui, là, il y en a pour tous les goûts. On se souvient tous de la pub aussi.
Que tous ceux qui aiment la Danette se lèvent.
Rassemble tous pour Danette, Danette, Danette. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Le succès est au rendez-vous, c'est vrai que c'est un bon souvenir, c'est pour
ça. C'est un côté très joyeux.
Ça marque c'est resté imprimé dans nos rétines, dans nos tympans. Et alors, ça n'empêche pas ce succès, les salariés de l'usine Danette, d'être très attentifs aux demandes des consommateurs. Je disais tout à l'heure, il faut bien ouvrir son courrier dans une entreprise. Qu'est-ce qui arrive au courrier un jour de 1984
hein? Alors, en fait, parmi les nombreuses lettres du courrier, il y a notamment une lettre d'une classe d'école primaire avec des enfants qui ne sont pas très contents parce qu'ils disent alors, je vous ai parlé du gros format de 500 grammes, mais oui. Il y avait aussi des petits pots de Danette qui existent toujours d'ailleurs. Et en fait, ils disent, on n'est pas content parce qu'au fond des petits pots de Danette, il y a des nervures. Donc ça veut dire que quand on récupère la crème dessert, il en reste toujours coincé au nerf entre les nervures. C'est agaçant. Mmh. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Évidemment, les équipes réfléchissent. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites nervures au fond des pots de Danette. Parce que comme ça, vous pouvez tout racler.
Aujourd'hui, Anaïs Bouissou, Danone, c'est un numéro 1 mondial dans l'agroalimentaire?
Ah oui, c'est le numéro 1 mondial des produits frais. C'est présent dans plus de 120 pays dans le monde, 100 000 salariés, c'est des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, on peut dire que c'est un mastodonte, Danone, aujourd'hui. Mmh.
Parmi les trésors de Danone, il y a un immense congélateur. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur, Anaïs?
Alors, on peut y trouver des souches de ferments lactiques qui ont été conservées par Danone. Il y en a 1800. Mmh. Conservé, notamment pas que, hein, mais notamment dans un atelier de Saclay en région parisienne. Et la nouveauté, c'est que pour ces 100 ans, la marque Danone, le groupe Danone, ouvre, on va dire, cet immense congélateur, on peut dire ça comme ça, aux scientifiques du monde entier.
Mais c'est des souches qui servent à quoi encore? À fabriquer
à
aujourd'hui
fabriquer,
ou c'est la mémoire
à fabriquer les yaourts, effectivement, parce que le yaourt, il se fabrique aussi avec ses ferments. Et ça permet éventuellement aux chercheurs qui vont s'en saisir de faire des recherches dessus et de peut-être trouver davantage de liens entre ces ferments lactiques et pourquoi pas cette bonne digestion, ce qui permettrait de revenir, pourquoi pas, à une communication sur la santé, comme c'était le cas au début de la marque Danone.
Oui, quand le fondateur Isaac Carasso a lancé ses premiers yaourts et qu'il les vendait, vous nous l'avez raconté, dans les pharmacies. Autre histoire à venir.
Oui, dans la saga Danone, celle de la chute du mur de Berlin et d'un concert entré dans l'histoire, celle du violoncelliste russe Mislav Rostropovitch. Mais que vient faire Danone là-dedans? Vous le saurez si vous restez à l'écoute d'RTL.
Dès ce soir, retrouvez l'actualité de la Transat Jacques Vabre avec Corum l'Épargne et suivez Nicolas Troussel et Jean Le Cam, skipper Corum l'Épargne sur corum.fr.
Avec la vie que je mène, j'ai tendance à manger n'importe quoi, n'importe quand. Ça perturbe mon équilibre intérieur.
Jusqu'à 15h,
C'est pourquoi chaque jour, je mange bio de Danone. Au Bifidus actif.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le Bifidus est un ferment naturellement présent dans notre organisme depuis la naissance. Bio de Danone est plus qu'un yaourt.
Soyez fiers des curieux.
Sur RTL, dans la curiosité, on vous raconte la saga d'une grande marque française devenue un géant mondial, Danone. Et c'est toujours Anaïs Bouissou, journaliste éco à la rédaction d'RTL, qui nous accompagne. Alors, dans cette conquête du monde, il y a une date qui est très importante. 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin. On en célèbre le 30e anniversaire demain. Alors, il faut imaginer le patron de Danone, Antoine Riboud. Vous nous avez décrit sa personnalité, ce côté patron atypique. Il est devant sa télé, comme des millions de téléspectateurs. Et d'un seul coup, son téléphone sonne. Qui est au bout du fil?
Mislav Rostropovitch, l'immense violoncelliste qui va se retrouver le lendemain sur le mur de Berlin à jouer une sonate de Bach devant des millions de téléspectateurs. Et effectivement, la veille au soir, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a passé un coup de téléphone au patron de Danone, Antoine Riboud. Et ils se sont dit tous les deux, allez, demain on va sur le mur de Berlin, on veut y être, c'est un événement mondial.
Il faut expliquer que Rostropovitch est un russe exilé. Donc,
pour lui, c'est quelque chose
de la chute
primordial.
Du mur, c'est majeur.
Ouais. C'est majeur pour lui. Mais pour Antoine Riboud, c'est aussi un événement. Il se rend évidemment compte, comme tous ceux qui l'ont vécu à ce moment-là, que c'est l'événement, l'un des événements du siècle. On peut même dire ça comme ça.
Donc, qu'est-ce qu'il met à disposition de Rostropovitch?
Il faut dire que c'est quand même un grand patron français. Donc, il a la possibilité d'avoir un petit avion. Ouais. Et donc,
facile. avion privé.
Allez, il sort le petit avion de sa poche. Ouais. Non, en fait, ils ont la possibilité de se rendre avec l'avion Danone, effectivement, sur le mur à Berlin. Et ils y sont le lendemain à 11h.
Et là, à 11h, Rostropovitch est au pied du mur de Berlin, devant les caméras du monde entier. Alors c'est un moment historique, bien sûr, très émouvant, fort, mais c'est aussi une opportunité économique pour Antoine Riboud. Que fait-il dans les semaines qui suivent la chute du mur de Berlin?
Alors, il va tout de suite développer des réseaux de laiterie, des réseaux de distribution.
On va explorer, enfin on va plutôt pratiquer les sports les plus fous de la planète. Il y aura de la bataille d'orteils, du chess boxing, du airsex et aussi du recouvrement d'abeilles. Ça va vous plaire, Thomas?
Ben oui, j'adore.
Alfred Duller, 51 ans, scorpion ascendant bélier, directeur du marketing de la division produits frais chez Madone. Costume, Hugo Boss. Parfum, Hugo Boss. Poète préféré, Hugo Boss.
RTL. Écoutez-moi, les gars, j'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous feriez bien de vous demander, mais qu'est-ce qu'elle a envie de voir, notre ménagère?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui dise?
Extrait du film 99 francs où la marque Danone est parodiée en Madone. Je crois que tout le monde avait à peu près compris. On est toujours avec Anaïs Bouissou qui nous raconte la saga de la vraie marque Danone qui fête ses 100 ans cette année. Alors, il y a évidemment eu beaucoup de tempêtes médiatiques dans l'histoire de Danone, dans une histoire aussi longue. C'est logique. On va en raconter une. On est en 2001. Que décide de faire Franck Riboud, le patron de l'époque?
Alors, en fait, à la base, il n'annonce, c'est pas lui qui fait cette annonce concernant Lu. Tout part en fait d'un article du Monde qui dit qu'il va y avoir la suppression de 3000 emplois en Europe, dont la moitié en France, dont des usines fermées en France. Mais finalement, ce n'était pas du tout une annonce du patron, ce qui va s'avérer être une communication désastreuse.
Ah, ça lui échappe dès le début.
Au moment du groupe. C'est-à-dire qu'il y avait des réflexions en cours sur une restructuration de Lu, sur le fait que tout ce qui était division biscuit était peut-être un petit peu moins rentable par rapport au reste, par rapport aux produits frais, aux produits laitiers. Mais on n'en était pas encore au moment des annonces officielles. Donc c'est ça ce qui va déclencher la crise Lu, ce qui va déclencher un mouvement de mobilisation, jusqu'à même un mouvement de boycott des produits, dans un contexte d'élection municipale en plus. Donc ça va être vraiment l'exemple d'une communication ratée, et même si la restructuration va se faire, avec moins d'emplois supprimés que prévu, je pense que c'est quand même une cicatrice au sein du groupe Danone.
Il y a Franck Riboud qui va prendre du recul en 2014, qui est le patron de Danone aujourd'hui, Anaïs
Bouissou.
Aujourd'hui,
c'est Emmanuel Faber, alors qui est quand même dans la droite ligne de ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire l'entreprise qui est là à la fois pour faire du profit et à la fois qui a un objet social.
Merci beaucoup.
Merci Anaïs.
Anaïs, c'était passionnant. Et puis il y a votre histoire insolite des marques, ça fourmille d'anecdotes et de bonnes histoires à découvrir. C'est publié chez City Edition. Merci.